sa chair basoche, les batteuses d'hommes. Elle n'avait cependant rien de farouche ni de satanique, cette petite Séraphita, qui avait des phases d'exaltation, de réticence mystérieuse, d'initiée, nous racontait de si étranges choses en une de ces fins de dîner qui se prolongent dans la fumée des cigares. Avec l'enveloppant de ses bouclettes de soie blonde, qui mettait autour de sa figure de gamine comme une auréole de lumière, son nez malicieux, ses joues veloutées qui se coloraient de brusques rougeurs, ses lèvres qu'entr'ouvraient des rires de joie et de moquerie, elle semblait à peine féminisée, un enfant plus grand qu'on en est à son âge et qui n'a pas meurtri son cœur ingénu au contact de la vie, effeuillé au vent ses suprêmes illusions. Seuls les yeux aux luisances changeantes de pierres précieuses, d'un bleu attirant d'abîme et aussi d'un bleu implacable de ciel d'été, les prunelles qui s'illuminaient et qui se métallisaient s'imprégnaient de cruauté, de ténébreuses chimères, de perverses souvenances, décelaient quelques détraquements, quelques complications anormales dans les rouages de cette âme simple, charmante de puérilité pensionnaire, dont la chair virginale sommeille encore un pâture pollué. Nous avions d'abord souri, comme dans l'intermède amusant, tandis qu'elle appuyait de toute une mimique heurtée et violente ses théories sur l'amour, et qu'il y ajoutait la saveur d'un accent guttural, traînant, rude et calme à la fois, de nomade né sous la tente, qu'elle s'énervait, s'interrompait tout à coup, les sourcils froncés, les dents crissantes de la bouche que crispe une moue querelleuse. Et voici que chacun s'accoudait sur la nappe où courait une débandade de petits verres poisseux, de bouteilles, l'écoutait dans un trouble instinctif, s'intéressait à ces dépravations ignorées dont elle se faisait l'apôtre, des mirages d'Éden, de terre promise dans son regard fixe, des séductions dans ses longues mains blanches, souples, impérieuses, de sacrificatrice. « Alors, disait Séraphita, ses pâles joues empourprées par les vibrations de son cœur, vous croyez être des amants, donnez la preuve de votre amour à une femme, parce que pendant des semaines, des mois, des années même, vous la recherchez plus qu'une autre, vous l'adulez, vous la suppliez en de sentimentales et ferventes lettres, d'où l'on voudrait que les mots épandent des sortilèges, des griseries, des parfums de musique. » Soit à l'unisson du désir qui vous aiguillonne sans trêve, de la passion qui vous ronge jusqu'aux moelles, comme cette tunique de trahison trempée dans le sang des monstres où se débattait le divin Héraclès, parce que votre bouche rive à sa bouche, parce que vous l'emportez en de torpides escarses, parce que vous lui obéissez, vous acceptez une sorte de servage, vous abdiquez toute volonté, vous vous agenouillez sous le joug qu'elle vous tend de ses doigts prometteurs, vous payez parfois en souffrance, en nostalgique regret, en larmes, ce que la trop aimée vous accorde de béatitude et d'ivresse. Mais qu'est-ce que ce jeu de corruption où le cœur n'apparaît qu'avili, que souillé, qu'étouffé en de bestiales pratiques ou pour atteindre le but où l'on prend la même route que le commun des hommes, que ceux qui ont seulement des forces, qui n'ont aucune étincelle dans le cerveau, que si peu de choses différencient de l'animal, dressé au labeur, où l'on aboutit à l'anéantissement du stupre, que sont ces éphémères voluptés, ces comédies dérisoires, à côté de ce que nos âmes inquiètent, inassouvissables, chercheuses, slaves, ont trouvé de ces jouissances qui nous offrent là-bas, les raffinés, pour que la femme, la vierge, et l'idole souveraine de ces véritables supplices auxquels cela se condamne, s'abandonne pour affirmer leur soumission, pour témoigner leur ferveur. Elle eut dans ses claires prunelles bleues, comme de radieuses passées de souvenirs, et plus lentement, ainsi que pour nous enfoncer un à une ces paroles dans le cerveau, et les incruster à jamais, elle reprit. Vous avez lu, quelquefois peut-être, à la quatrième page des grands journaux hongrois ou russes, d'énigmatiques annonces qui étaient libellées ainsi. Jeune fille jolie, batteuse, puis une adresse quelconque. Cela signifiait que Mademoiselle X ou Y est affiliée à notre secte, prête, si l'homme qui lui écrira, qui l'implorera, vient au rendez-vous aussitôt accepté, l'intéresse lui plaît, à devenir l'ami qui le dominera, qui lui donnera le délice de souffrir, le rêve du ciel, qui le rendra pareil à ses saints dont la chair se purifiait en incessantes macérations, qui le flagellera avec la frénésie d'un bourreau qui s'acharne sur sa victime. Ensuite, si cette façon de mariage se conclut, l'un et l'autre se retrouvent dans quelque appartement couvert d'épais tapis, tendu d'étoffes où se heurteront sans écho les clameurs et les plaintes. L'homme se déshabille à demi, s'étend, le torse nu, sur quelques peaux de bête, tend ses poignets, ses chevilles à la femme pour qu'elle y rive des anneaux et des chaînes, qu'elle le réduise à l'impuissance absolue. Et, décolletée, en toilette de bain, toute blanche, la pelisse de Zibeline rejetée derrière soi, les doigts crispés au pommeau d'une cravache, la batteuse use ses forces sur l'être qui est maintenant sa possession, frappe à tour de bras, frappe encore, frappe toujours, s'affole, se grise de ses crises d'éperdue tendresse, de ses sanglots d'adoration, de ces raies de souffrance qui montent vers sa beauté, de ce sang qui jaillit, qui remplit la chambre comme d'une odeur d'holocauste, à cause d'un délire sacré, plonge des yeux de flamme dans ses yeux de victime qui la contemple, qui la dévore, qui la caresse à travers une buée de larmes, dans cette chair qu'elle sent sa merci et dont l'âme tout entière, les pensées lui appartiennent. Elle voudrait que son faible corps de femme, que ses bras, que ses muscles aient une vigueur formidable, que ses forces s'éternisent, se dépuclent, frappées jusqu'à ce qu'il en meure, et retomberait d'elle le cœur brisé, les prunelles étreintes. Malapeste ! Quelle conviction, mademoiselle ! Balbutia Lumière de ce ton pâteux qu'on a quand on se réveille en sursaut au milieu de quelque cauchemar. Voilà des turlutaines qui ne me tendent pas, mais pas du tout. La glandée, qui essuyait nerveusement le verre terni son monocle, se redressa et, toujours désireux de se renseigner, d'aller, comme il dit, au fond des choses, demanda « Êtes-vous très nombreux dans votre petite confrérie fouetteuse ?» Séraphita ne parut pas s'apercevoir de la pointe d'ironie qui perçait dans cette question, et elle répondit fiévreusement « Oh, je le sais, car nous ne réussissons jamais que par couple. Qu'importe d'ailleurs, n'est-ce pas un de vos plus grands poètes qui a dit que ce qui ferait le bonheur du paradis, ce serait le petit nombre des élus ?» 100 ou 1000 ou plus, c'est chose bizarre, parmi les plus décidés et les plus exaltés. Surtout des garçons robustes, sains, bâtis pour de véritables luttes. Et ces beaux officiers, blonds et roses, aux épaules carrées, aux poitrines bombées, comme des boucliers, oui, des tas d'officiers, qui pourraient nous jeter bas d'une chiquenaude, et qui vont au-devant de ce martyr mystique, qui ne veulent pas d'autre amour, qui guettent avidement ces suggestives annonces dont je vous parlais tout à l'heure. Et la jeune fille ajouta mélancoliquement, « Hélas, pas un de vous ne me trouve belle, et le même, puisque ni Monsieur de la Pierre, ni vous, Monsieur la Glandée, qui êtes pourtant si flirte, ni Georges Vignolles, ne demande à être mis à l'épreuve, ne s'offre ma cravache. C'est que voilà, opina la glandée, mademoiselle Séraphita, petit ange délicieux, votre petite fête manque trop de, comment vous dirais-je cela, de suite et fin. Nous ne sommes pas encore assez faisandés, voyez-vous. Et quant à moi, vrai de vrai, j'aime mieux ma mie au gué, oh, j'aime mieux ma mie au gué. Séraphita haussa les épaules.